durant l'occupation. Semer la terreur au sein de l'immigration afin de la séparer de l'organisation.
Papon traverse toute cette histoire, de Vichy à l'Algérie en passant par les rues de Paris. Il aura quasi d'une certaine manière une formation accélérée pour cette pratique à la fois coloniale et cette pratique d'une certaine manière d'oppression sur l'autre. Et quand il arrive à la tête de la police parisienne, il redynamise même des structures qui étaient presque un tout petit peu tombées en désuétude dans les années 20. C'est-à-dire qu'il va relancer une brigade spécialisée qu'on va appeler la BAV, la brigade anti-violence, qui est spécifiquement destinée aux maghrébins, je tiens à le dire. Elle n'avait pas d'autre fonction. Les fichiers vont être mis en place, le contrôle total des populations. C'est-à-dire qu'il va créer un état de guerre colonial à l'intérieur de la capitale.
Et qui aboutit, entre autres, à ce couvre-feu.
Exactement.
Ce qui est quelque chose d'assez imaginable avec un tout petit peu de recul, c'est-à-dire sous De Gaulle, le grand libérateur de la France. Voilà qu'on impose un couvre-feu racial.
Exactement, pour une population très spécifique. Véritablement racial, parce que le couvre-feu était souvent, il faut bien l'imaginer à l'époque, on imagine bien que la police française ne faisait pas forcément la différence entre le travailleur marocain, tunisien et algérien. Donc c'était un couvre-feu d'élite sale gueule, et qui rendait la situation impossible d'ailleurs pour ceux qui travaillaient dans Paris. Donc on se retrouve avec une pression telle que les événements du 7 octobre ne sont que la partie visible, mais ce qu'il faut bien arriver à comprendre, c'est qu'on pourrait cumuler à travers toute cette histoire dans le siècle des petits 17 octobre. C'est-à-dire qu'il y a comme une culture de la violence qui s'est installée et qui va exploser à ce moment-là.
Et avec ces 200 morts balancés...
200 à 300, puisqu'on considère aujourd'hui qu'entre ceux aussi qui ont eu en banlieue parisienne, en périphérie, dans les commissariats les jours qui ont précédé les autres, aujourd'hui, les travaux d'Inaudi montrent qu'on est entre 200 et 300, oui, tout à fait, oui. Ce qui est, je trouve, extrêmement important à mesurer aujourd'hui pour nos auditeurs, c'est d'arriver à comprendre que tout ça se passe en plein Paris. Jusqu'alors, l'histoire coloniale se passait loin, et qu'on avait plutôt les rêves et les fantasmes coloniaux. Les reconstitutions, les rêves d'ailleurs, les bistrots orientaux. Alors que là, on se retrouve confronté au colonialisme le plus froid, le plus direct, en fait. Je vais le dire froidement, le plus naturel. Ça fait partie du Paris arabe, parce que ça reste une trace indélébile, qui est des fois d'ailleurs un peu trop voilée toute l'histoire qui l'a précédée. C'est assez incroyable de se rendre compte comment il y a à se concentrer sur cette ville, sur ces drames. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, la mémoire collective a plus retenu le 7 octobre que le 8 mai 45, d'une certaine manière. Ce qui montre le symbolique, le côté symbolique de Paris, de ce crime dans Paris, c'est que ça a été jusqu'à faire couler le sang dans la Seine.
Et jusqu'à ce graffiti qui était dans... C'était dans les jours ou dans les semaines après le
lendemain.
Dès le lendemain.
Dès le lendemain, des jeunes intellectuels viennent taguer. Ici, on a tué les Algériens.
Sur le pont Saint-Michel, juste en face de l'avenue Saint-Michel et en face du palais de justice.
C'est une photo qu'on a retrouvée, qui est dans le livre. Et qui est, je trouve qu'elle est assez éclairante parce qu'elle elle constitue à elle-même une sorte de lieu de mémoire photographique sur un lieu où des millions de gens passent tous les jours, des touristes notamment. Et on a du mal à imaginer qu'à cet endroit-là, justement, cette histoire coloniale, d'un seul coup, a totalement éclaté. Et que le miroir, justement, où la ville du Paris arabe a totalement basculé dans le sang pendant ces journées sombres et noires d'octobre 61.
Ben, j'ajoute une dernière nouvelle concernant aussi l'Algérie. Là, à Nanterre, une opération de police s'est déroulée cette nuit et 650 musulmans ont été interpellés. 17 suspects ont été appréhendés et conduits au poste pour examen de leur situation.
Douce France, pas trop ce jour-là en tout cas, pas trop ce 17 octobre 61, pas toujours douce et tendre avec les immigrés arabes s'installant dans cette ville, s'installant en France. Et c'est l'installation, c'est ça la grande affaire, c'est ça le grand virage, c'est ça les années 70, c'est le regroupement familial. Et là, effectivement, ce que disait à l'instant Pascal Blanchard, c'est le moment où tout bascule, c'est le moment où le regard change. La décolonisation, c'est pas nécessairement synonyme de décolonisation des esprits, des mentalités, des cœurs colonisés par la haine. Pour des raisons multiples, il n'y a pas une haine raciale ontologique, disons. Ou si elle est ontologique, on sait à quel point elle est attisée par certaines circonstances et puis par certaines manipulations. Paris arabe.
Jusqu'à maintenant, ne pas voir le travailleur arabe, c'était possible. Mais pas voir les enfants qui arrivent à l'école et les mères qui font les courses, c'est plus possible. C'est une autre visibilité qui commence. C'est-à-dire qu'on rentre dans une autre logique. Et là, je dirais que le choc des images est important. Et ce qu'on n'a pas assez mesuré, c'est que je pense que ce basculement qui se passe à partir des années 70-75, en gros, et qui vont amener jusqu'aux années Mitterrand, et je crois que, pour bien comprendre cette période, c'est 74-83. C'est-à-dire de l'émergence de l'arrivée des familles jusqu'à la marche des beurs. Les enfants de cette immigration qui, pour la première fois, de Marseille à Paris, en revendique, avec une phrase qui est simple, nous existons. Ce qui montre bien qu'ils n'existaient pas avant. Voilà. S'ils ont besoin